palla nella difesa del Milan.
Buona partita, buona vista, buona partita, buona partita. Che buona palla per la Carvalho. La gioca, la vita, c'è dal buon gol. Gol, 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 gol.
Si passa a Milè. Ed è là.
Ed è là. Ed è là. Ed è là. Sur le service d'Erickson Cavani. Apprêté pour un rendu entre les Uruguayens. Et le Brésilien, pour la qui est en train de mettre.
L'avant-match avec Hakim Tamim.
Et notre ami Nagy à la réalisation de cette émission et toute l'équipe pour vous servir. C'est bien entendu l'avant-match essentiellement. La Ligue des Champions au cours de cette édition, l'effet marquant de cette semaine, mercredi-jeudi. On parlera également du week-end parce qu'il y a pas mal de chocs à suivre. Mais avant cela, on parlera du football africain. Avec nous dans cette première partie, Hervé Penaud, notre monsieur football universel. Bonsoir Hervé.
Bonsoir à vous les amis, quel plaisir d'être avec vous.
Le plaisir est partagé également avec nous, Simone Rovera, notre monsieur football italien. Bonsoir Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir. Désolé, il y a un peu de vent ici, mais je suis à côté de la mer, à Genova, sur le terrain du Genoa, pour suivre les débuts de Thiago Motta, qui demain va diriger son premier match en tant qu'entraîneur.
Thiago Motta, l'ancien joueur du Barça et du Paris Saint-Germain notamment, qui est donc le nouvel entraîneur. On va y revenir dans un instant. Vers la fin de cette première partie, on ira en Angleterre pour avoir Aurélien de Vernoy, la belle série des équipes anglaises en Ligue des Champions, également en Europa League. La deuxième partie, l'Espagne et l'Allemagne. Mais d'abord, en Angleterre par exemple, il y avait un joueur qui en France, plusieurs équipes voulaient s'attacher ses services. C'est Nicolas Pépé, l'international ivoirien, discret pendant la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire. Des débuts timides en Angleterre, d'ailleurs il a perdu sa place de titulaire. Eh bien hier, il a permis à son équipe de l'emporter, deux superbes coups francs. Et on a en quelque sorte retrouvé Nicolas Pépé qu'on a vu avec l'équipe de Lille, Hervé.
Absolument, eh bien, on l'attendait, hein. On attendait le Pépé de Lille. Eh bien, le Pépé de Lille, on l'a retrouvé sur ses 15 minutes, hein. Il est rentré en fin de match. Guimaraes, c'est pas non plus l'adversaire du siècle, hein, pour l'équipe d'Arsenal, mais c'était important pour lui, important d'enfin retrouver le chemin des filets, important de montrer que son transfert, eh bien, il fallait qu'il l'avait un minimum digéré. Alors, ce n'est que le début, mais pour lui, il fallait aujourd'hui montrer qu'il n'était pas simplement un espoir lillois qui avait enflammé le championnat de France, mais qui n'avait pas le niveau pour la première ligue. Alors, attention, il a eu quand même pas mal de critiques ces derniers temps, pas mal, je dirais même beaucoup de critiques, et il faudra évidemment beaucoup plus que deux buts sur coup franc contre Guimaraes pour montrer aux gens qu'il était effectivement le joueur qu'on pouvait attendre à Arsenal, parce que on sait très bien qu'en Angleterre, de toute façon, ce qui compte d'abord en premier lieu, c'est le championnat d'Angleterre, et comme ce Arsenal-là était un Arsenal un peu en difficulté, qui pratique pas un football très très attrayant, Emery est beaucoup critiqué qui est aussi là-bas, et ben ça fait qu'il est un peu dans la nasse, il est dans cette spirale négative, et il va falloir qu'il redéclenche quelque chose, par exemple pourquoi pas en Coupe de la Ligue contre Liverpool, pour redonner un petit peu de la vie à ses performances actuelles, parce que il est bien loin du niveau qu'on pouvait l'attendre, et puis d'une certaine manière, marqué sur coup franc, même si Emery avait expliqué qu'il s'était entraîné durant la semaine, qu'il avait progressé dans cet exercice, alors si, imaginez, s'il suffit de deux entraînements dans la semaine pour faire des coups francs, et puis il en remettre deux les trois jours plus tard, c'est un petit peu ridicule. On sent bien qu'il y a tout autour de Pépé la volonté de le mettre dans les meilleures conditions, d'essayer d'en parler de manière positive, parce qu'on ne met pas 80 millions sur un joueur comme ça sans espoir en retour d'avoir des super performances. Il a du mal à se mettre pour l'instant au rythme du championnat d'Angleterre, mais c'est pas illogique non plus. Il a une progression très régulière. Il a explosé complètement l'année dernière à Lille. Il lui a fallu un petit peu de temps aussi pour se faire à Lille quand il est arrivé. Donc voilà, moi je trouve ça relativement logique. Simplement, le problème, c'est qu'il est dans une équipe qui fonctionne pas très très bien, mais il avait montré par bribes, je me souviens même en début de saison, ses qualités. Simplement, il faut qu'il en fasse plus, qu'il montre plus, et puis qu'on le veuille ou non, à partir du moment où vous êtes un transfert aussi cher, bah, les gens attendent évidemment beaucoup plus qu'un simple joueur qui viendrait pour 10 millions d'euros.
Voilà, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de pression sur le jeune joueur ivoirien. On reste en Afrique avant de parler du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille, de Lyon. L'Afrique avec ce coup de gueule du capitaine de la sélection ghanéenne, contrairement aux autres sélections, eh bien le Ghana n'a pas disputé de matchs amicaux au mois de septembre, pas de matchs amicaux non plus au mois d'octobre, et le mois prochain débute la Coupe d'Afrique des Nations, et le dernier match du Ghana, c'était lors de la dernière CAN. Est-ce que c'est du classique là aussi, Hervé ?
Non, là, ça va un petit peu loin. Je trouve que les Ghanéens ont fait absolument n'importe quoi. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de problèmes avec la fédération ghanéenne. Vous savez, avec un président qui a été mis de côté, etc., etc., des histoires d'argent, enfin bon, du classique, j'allais dire, avec le football africain. Mais toujours est-il que le Ghana nous avait habitués un petit peu mieux. Ils avaient participé à pas mal de Coupes du Monde ces derniers temps. Mais là, force est de constater que ça a été encore du grand n'importe quoi. On peut comprendre, par exemple, le Sénégal qui avait dit à ses hommes en septembre, on va pas faire de match amicaux, reposez-vous, ça va vous faire du bien, parce qu'après la CAN, évidemment, tous les organismes étaient fatigués. Mais là, le fait de rater les deux trêves internationales pour le Ghana, c'est absolument stupéfiant. C'est-à-dire qu'à un moment, une équipe, il faut aussi la préparer pour les compétitions à venir, et notamment, bien sûr, pour la CAN. Et je voulais juste prolonger, Hakim, sur l'histoire de la CAN, parce que je pense que c'est important. La décision qui a été prise par la FIFA de mettre en place une Coupe du Monde des clubs à partir de 2021, ça fait quoi? Ça vient tamponner de fait sur la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu plus ou moins à la même période, en juin-juillet. Alors je ne sais pas du tout maintenant comment les choses vont évoluer. Ça me semble assez inextricable, parce que la nouvelle Coupe du Monde des clubs, il y aura 8 équipes européennes, vous avez des équipes africaines, sud-américaines, asiatiques. Ce qui sous-entend, si vous voulez, que certains joueurs pourront faire double emploi, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans les deux compétitions. Qu'est-ce qui va être décidé? Est-ce que ça va contraindre la CAF même, à changer ses dates de CAN? Est-ce que ça va contraindre la CAF à se dire, finalement, on va le faire tous les 4 ans et non plus tous les 2 ans? Là, je n'en sais rien, j'ai aucune lisibilité. Ils auront encore un tout petit peu de poids, mais je pense que la CAF n'a pas saisi toutes ces opportunités récentes et ne s'est pas rendu compte que là, cette histoire de Coupe du Monde des clubs avec un nombre important de clubs, ça peut mettre aussi à mal la CAN. Donc, on verra. Mais c'est une histoire qu'il faudra suivre de très très près, car ce n'est pas simple. Je ne dis pas que c'est inextricable comme situation, mais en tout cas, ça va demander beaucoup d'imagination pour qu'on puisse retomber sur nos pattes et surtout pour conserver la CAN comme on l'a aujourd'hui.
C'est une question bien sûr à poser rapidement comme ça on libère Hervé. Une dernière question, on a vu le Paris Saint-Germain bien entendu en Ligue des Champions, la belle prestation de Kylian Mbappé, et ce week-end il y a un match très important, Lyon, on aura l'occasion de reparler de Lyon, un match très important, le PSG face à l'Olympique de Marseille. Ces dernières années on a vu des affiches déséquilibrées, est-ce que c'est l'année où l'OM pourrait éventuellement accrocher cette équipe parisienne, Hervé?
Hakim, je n'y crois pas, malheureusement, pour tous les supporters de Marseille qui nous écoutent. Mais non, ça me paraît compliqué. Et là, vous avez un Kylian Mbappé qui a envie de marquer l'histoire du football, ça on le sait, mais son territoire d'entrée. Il est rentré en cours de match cette semaine en Ligue des Champions. Il a mis 3 buts à partir de la 55e minute et une passe décisive, ce qui est absolument stupéfiant. La fois d'avant, il est venu en rentrée en championnat, un but, une passe décisive, et il a mis la pression sur Tuchel d'entrée en disant « mais moi je comptais jouer, je comptais pas être remplaçant ». Donc autant vous dire que contre Marseille, en plus c'est un adversaire qui lui réussit bien, rappelez-vous qu'il avait eu le retard l'année dernière, il avait été en retard avec Rabiot, et il n'avait pas fait le match retour, il n'avait pas été titularisé parce que Tuchel avait décidé un peu de le sanctionner pour ce retard. Là aujourd'hui, il a envie de tout casser, et je pense que c'est vraiment le match qu'il attend pour frapper un grand coup, pour son retour vraiment définitif après sa blessure au plus haut niveau. Et là, j'ai un peu peur pour les Marseillais, mais Villas-Boas devrait se décider sur un système de jeu assez défensif, avec certainement une défense à 3, à 5 disons, pour essayer de réduire au maximum les espaces. Alors même sans Neymar, je pense quand même que ce Paris Saint-Germain-là a un tel niveau que ça va être très très compliqué pour Marseille de pouvoir s'opposer avec Icardi qui revient bien, qui est encore prêt de doubler, avec Cavani qui est dans les starting blocks, Di Maria qui vole. Ça peut faire mal pour Marseille, mais bon, vous savez, c'est du football, donc si vous êtes supporter marseillais, on peut toujours espérer que, sait-on jamais, s'ils défendent vraiment bien, ils vont pouvoir contrer un peu cette équipe de Paris. Mais attention, Mbappé est en feu, il fait phénoménal, est en feu.
Merci beaucoup Hervé Penaud, Hervé, on doit libérer notre monsieur football africain et universel pour d'autres engagements. Mais dès lundi prochain, on va se rattraper pour revenir sur ce choc et également voir ce que ça donne du côté de Lyon. Vous le savez, malgré le changement d'entraîneur, et bien pour l'instant, Lyon, ça ne va pas très fort. Dans un instant, Aurélien de Vernois pour parler du football anglais. Mais en attendant, on part en Italie pour retrouver Simone Rovera avant de parler de la Juve, des matchs de Ligue des Champions. D'abord, ce qui se passe en ce moment, c'est le direct. J'ouvre une parenthèse pour saluer Samir Ouarab qui passe le bonjour à toute l'équipe. Le Génois est avec la nouvelle expérience, la nouvelle aventure pour un excellent milieu de terrain qui est désormais de l'autre côté de la barre. Il est entraîneur Simone.
Il est entraîneur, il se prépare pour demain, les grands débuts face au Brescia. Il est très tranquille aujourd'hui en conférence de presse. Imaginez Thiago Motta, on lui demandait des comparaisons entre tous ces grands coachs qu'il a eu. Il disait, mais moi je veux être seulement Thiago Motta. Et je pense qu'avec quelqu'un comme ça, il pourrait marquer une page importante dans l'histoire du football. C'est un excellent... c'était un excellent joueur, il voyait les jeux, il était déjà coach sur le terrain. Je pense que ce serait une belle expérience pour Genoa, qui aujourd'hui lutte pour le maintien, d'avoir un jeune entraîneur, jeune comme moi, 37 ans, donc encore très très jeune. Et pourquoi pas, il y a aussi un international marocain au Genoa qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais vous savez, avec un nouveau coach, toutes les hiérarchies vont changer, donc il y a Badel Yamik. Pourquoi pas, deux matchs cette saison, pourquoi pas vivre une autre saison différente avec un coach qui peut donner beaucoup de choses.
Voilà, en parlant de Yamik, l'international marocain qui était titulaire avec l'équipe du Maroc lors des dernières sorties. Il a été heureux avec un but face à la Libye, mais malheureux face au Gabon. Il a été à l'auteur d'une faute qui a amené le deuxième but gabonais. On reste en Italie. Les sorties des équipes italiennes en Ligue des Champions, comment ont été jugées cette semaine, Simone?
Bah, très très bonne. C'était une semaine presque parfaite. Après, personne ne pouvait imaginer ou croire que l'Atalanta allait faire résultat sur le terrain de Manchester City. Mais Naples a gagné sur un terrain presque impossible. Salzbourg, qui n'avait plus perdu depuis 70 matchs consécutifs à domicile. Imaginez ce que ça veut dire.
On va essayer de vous rappeler, parce qu'il y a un problème de connexion, Simone, parce que on vous entend, c'est entrecoupé. Donc, on va essayer de vous retrouver. Apparemment ça va mieux, mais également Aurélien de Vernoy qui sera avec nous dans un instant pour parler du football anglais, mais on me dit que ça va mieux, donc Simone, c'est à toi.
Ouais, je bouge pas, mais vous savez, les vents, la mer, là, il y a une atmosphère pétillante à Gênes, et moi, j'étais en train de me faire prendre. Mais je vous disais, Naples qui fait un exploit, parce que Salzbourg, on dirait une équipe normale. Non, c'est une équipe extraordinaire, surtout à domicile, avec un buteur, Haaland, qui va devenir peut-être un des plus grands espoirs du foot européen. La victoire de l'Inter, plan style Conte. Moi, je pense que si vous allez revoir les matchs de l'Italie face à la Belgique à l'Euro ou face à l'Espagne, et vous contrôlez avec les matchs qu'il a fait l'Inter face au Borussia Dortmund, c'est la même chose. Très solide derrière, bien utiliser les ballons, même s'il n'y a pas beaucoup de ballons avec Conte, 45% de possession, mais bien maîtrisé, et surtout des joueurs défensifs extraordinaires. Je pense vraiment que Conte est en train de rebâtir son ancienne BBC de la Juve à l'Inter avec Skriniar, De Vrij et Godin, et c'est un résultat extraordinaire, surtout celui de Conte, parce qu'il a redonné une deuxième vie, une deuxième jeunesse à certains joueurs. Je pense à Candreva, extraordinaire sur ce match face à Dortmund, que la saison dernière était oublié, que personne plus voulait voir à l'Inter, les supporters ne le supportaient pas, et aujourd'hui il est titulaire, il marque des buts en Ligue des Champions et il est décisif. Donc à l'Inter, je pense qu'on peut commencer à oublier les passés des Bianconeri d'Antonio Conte et s'est félicité. Et pour parler des Bianconeri, ah, qu'est-ce que c'était compliqué. Une victoire, mais à l'arrache, compliquée, difficile, en souffrance totale face à la Lokomotiv Moscou, qui a fait un match défensif, a marqué un but sur une erreur derrière de Bonucci. Et je parle très bien de la défense de l'Inter. Pour moi, la défense de la Juve, Bonucci et De Ligt, c'est pas extraordinaire, surtout De Ligt, 70 millions. Pour l'instant, je pense qu'il a pas montré un dixième de sa valeur. Et après, au final, dans toutes les difficultés, les doublés de Dybala, la joya, les joyaux, quand tu as Cristiano Ronaldo, qui sera pas là ce week-end, il est au repos. Dybala, Higuain, bah, n'importe qui, quel attaquant tu mets sur le terrain, il va faire du bien.
On va revenir dans un instant sur Mertens, parce qu'il a effacé des tablettes un certain Diego Maradona du côté de Naples. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Mais d'abord, on va accueillir Aurélien de Vernoy, monsieur football anglais. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir Hakim, bonsoir Simone, bonsoir à tous.
Je posais la question tout à l'heure à Simone à propos des équipes italiennes. Pour l'Angleterre, pas de souci, ça marche en Ligue des Champions et en Europa League. Ça fonctionne à merveille même, Aurélien.
Ah bah là, cette semaine, on pouvait pas réellement demander plus. 7 matchs, 7 victoires, 4 en Ligue des Champions, 3 en Europa League. C'est vrai que c'est plutôt tout bénéfice pour les équipes anglaises, d'autant plus que non seulement il y a des victoires, mais pour les équipes qui étaient un petit peu en difficulté depuis le début de la campagne européenne. Toutes se sont replacées sur les places qualificatives, que ce soit à la première ou à la deuxième place. Donc c'est vrai que ça fonctionne bien. Il y a eu beaucoup de buts marqués également. En Ligue des Champions, Liverpool en a mis 4, Manchester City en a mis 5, Tottenham en a mis 5 également. Il y a que Chelsea qui n'a mis qu'un but, mais ils sont allés s'imposer quand même sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam, ce qui n'est pas une mince performance. Du côté de l'Europa League, Arsenal a eu certes du mal, mais c'est quand même imposé 3-2. Wolverhampton a gagné, Manchester United a gagné également à l'extérieur. Bon, tout va bien aussi parce que on a l'impression du côté de l'Angleterre que voilà, les clubs anglais qui peuvent être en difficulté en championnat retrouvent une certaine forme de sérénité quand ils jouent les compétitions européennes cette année. C'était souvent l'inverse ces dernières années. Bah écoutez, la première ligue évolue. C'est aussi probablement lié au fait que de plus en plus de joueurs très expérimentés des différents championnats européens rejoignent le championnat d'Angleterre. Et du coup, ça se ressent dans les compétitions européennes où, par exemple, un joueur comme Nicolas Pépé a retrouver son allant alors qu'en championnat c'est un petit peu plus compliqué.
Justement, on en a parlé tout à l'heure avec Hervé à propos de ce transfert, 80 millions d'euros, Nicolas Pépé, l'international ivoirien. Vous restez avec nous Aurélien, on revient en Italie parce que Diego Maradona, qui a fait les beaux jours de Naples aujourd'hui, il est effacé par un certain Mertens Simone. Pourquoi?
Imaginez, Diego Maradona, meilleur buteur de l'histoire du Napoli jusqu'à la saison dernière, s'est fait dépasser par Hamsik et aujourd'hui, oui, aussi s'est fait dépasser par Dries Mertens. Mais Mertens, 116 buts à Napoli, ça peut être un joueur qui fait gagner peut-être un jour un titre au Napoli, mais ne vous inquiétez pas, Diego Maradona sera toujours le roi de Naples. Mais il faut féliciter les prestations et les buts de l'international belge, parce qu'il est un mix des génialités, des vitesses, des précisions. Bien sûr, chaque joueur que tu mets dans la même phrase ou dans les mêmes mots à côté de Maradona, c'est impossible. Mais à niveau statistique, ce que fait Mertens, c'est extraordinaire. C'est en Napoli, beaucoup de réussites bien sûr dans son changement de poste, qui est de son arrivée où était latéral offensif à devenir avant-centre avec Maurizio Sarri, et là il continue dans ses séries, les doublés décisives pour la victoire face à Salzbourg a été donc une fois plus important avec cet nouveau record. Mais Mertens l'a déjà dit, Marek Hamsik, c'est un ami à moi, mais je vais bientôt le dépasser. Et il a mis même une deadline pour devenir le meilleur buteur historique du Napoli avant la fin de l'année.
Voilà, donc pour le meilleur buteur de Naples en Angleterre. Eh bien, ce week-end, on a parlé des équipes anglaises en Ligue des Champions et en Europa League. En ce qui concerne, le week-end, vous le savez, c'est Liverpool qui est en tête. Liverpool qui a enchaîné 8 victoires avant son match nul heureux l'autre jour face à Manchester United. Du coup, les autres équipes commencent à espérer, à commencer par Manchester City. Liverpool qui a un match important face à Tottenham. Tottenham, il y a quelques semaines, se faisait battre à plate couture par le Bayern Munich, 7 buts. Tottenham a repris des couleurs et peut inquiéter Liverpool, Aurélien.
Oui, alors, ça va être compliqué quand même. On va être complètement honnête. Certes, Tottenham a gagné cette semaine en Ligue des Champions assez largement, mais bon, contre une équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade, quand même pas un cador européen. Ils se sont rassurés, ils ont retrouvé un petit peu de certitude offensive. Le problème, c'est que contre Liverpool, c'est peut-être pas les certitudes offensives qui vont être la priorité. Ça serait plutôt d'en avoir à l'arrière. Et ça, c'est un gros problème pour Tottenham. On a l'impression que toute la ligne arrière de cette équipe a pris un gros coup de vieux à l'intersaison. Ça court moins vite. Vertonghen, Alderweireld, même Danny Rose. On sent que voilà, il y a un manque de solidité défensive. Et quand vous voyez ce qu'il y a de l'autre côté à Liverpool, on se dit que ça va être quand même compliqué pour les joueurs de Pochettino. Après, peut-être que justement l'entraîneur argentin va essayer un coup tactique pour ce déplacement à Anfield. On parle notamment de peut-être ajouter un joueur à vocation un peu plus défensive au milieu de terrain pour contenir les attaques de Liverpool. Dembélé a fait plutôt des entrées intéressantes et des matchs intéressants ces dernières semaines. Peut-être que Pochettino va essayer de stabiliser un petit peu son assise défensive pour éviter que son équipe prenne l'eau trop rapidement face à Liverpool. Et puis, finalement, Manchester United a prouvé la semaine dernière qu'avec une stratégie un petit peu audacieuse, avec un coup tactique, on peut quand même poser des problèmes à cette équipe de Liverpool. Le Napoli l'avait d'ailleurs prouvé en Ligue des Champions. Voilà, il y a peut-être un tout petit espoir pour que Tottenham ne reparte pas complètement la queue entre les jambes d'Anfield dimanche.
Dernière question à propos de Ronaldo. Eh bien, Ronaldo, normalement, ne devrait pas jouer avec la Juve face à Lecce. C'est une alerte ou bien vous rassurez les supporters, les fans de Cristiano Ronaldo, Simone, pour finir? Simone est parti. Donc, Simone est là, il est parti, on n'a pas de réponse. Bon, du moment qu'on n'a pas Simone, une dernière question pour le football anglais, puisque Aurélien est toujours avec nous. On a encore une minute, Aurélien. On a parlé de Liverpool face à Tottenham, mais il y a également Manchester City, qui est un match important et qui est intéressant pour la course au titre.
Oui, parce que Manchester City accueille un promu, Aston Villa, et c'est vrai qu'on se dit que City a quand même toutes les chances de remporter ce match, et que si Liverpool de son côté perd contre Tottenham, eh bien, City reviendra à 3 points de Liverpool. Ça serait quand même une très bonne opération pour un joueur de Guardiola. Le seul problème, c'est que Aston Villa, c'est une équipe qui marche plutôt pas mal depuis quelques semaines, avec notamment un milieu de terrain très intéressant, composé notamment de Grealish et de McGinn, qui sont des très bons joueurs, et puis qui ont un bon pied et qui marquent assez régulièrement. Donc voilà, City, a priori, n'aura pas de problème face à Villa, mais ça peut quand même être un peu compliqué pour les Mancuniens, d'autant plus qu'ils ont encore perdu des joueurs sur blessure cette semaine, Rodri et Zinchenko. Voilà, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de blessés du côté de Manchester City.
Voilà donc pour le football anglais. Merci beaucoup Aurélien de Vernois. On aura l'occasion de revenir sur le week-end et ce que vont donner ces rencontres intéressantes dès lundi prochain dans l'avant-match. Simone reverra également pour le football italien et puis également avec notre ami Hervé Penaud. Dans la deuxième partie, eh bien, on ira en Espagne pour retrouver Frédéric Hermel, le football espagnol, le Real, le Barça, l'Atlético et puis également David Lortolari avec notamment un match ce week-end entre deux internationaux marocains. À tout de suite. La deuxième partie de l'avant-match après Hervé Penaud, Aurélien de Vernoy et Simone Rovera. La deuxième partie, on ira en Allemagne avec David Lortolari, également l'Espagne avec notre Ballon d'Or, Frédéric Hermel. Bonsoir Fred.
Ah, Ballon d'Or, j'aime bien cette description.
Ah bah tant mieux, ça nous fait plaisir.
Merci, bonsoir à Kim, bonsoir à tous.
Et en attendant David Lortolari, le football en Espagne, vous le savez, demain normalement on devait avoir un classico, mais on n'a pas encore la date officielle parce que, eh bien, il y a des questions qui se posent encore. David Lortolari est avec nous. Bonsoir, David.
Bonsoir, Hakim. Bonsoir, Fred. Bonsoir à tous. Je laisse le ballon d'or à Fred sans problème.
Voilà, donc David, c'est le soulier d'or, Fred, c'est le ballon d'or, donc on a des champions avec nous pour parler du football espagnol et le football allemand. Et bien, en attendant le classico, on a vu les équipes espagnoles en Ligue des Champions avec les victoires. Difficile d'ailleurs, que ce soit le Real, le Barça et l'Atlético. Une image, avant de revenir, une image, le Barça. Après le coup de sifflet final, on a vu des têtes, Messi, Piqué, Ter Stegen. Ils étaient déçus, on a l'impression qu'ils avaient perdu, Fred.
Oui, bah, le match n'a pas été bon quand même. Il faut quand même reconnaître que l'homme du match côté catalan, c'était encore une fois, je me répète, hein, Marc-André Ter Stegen. Quoi. Quand vous regardez les trois arrêts qu'il a fait en première période, à 0-0, sincèrement, le Barça... Finalement, moi, je trouve plutôt rassurant que les joueurs ne soient pas contents de leur match. Parce que ce sont les premiers à savoir sur le terrain ce qui se passe réellement. Et c'est une victoire, certes, mais il y a quand même beaucoup de questions et les joueurs ne sont pas dupes. Ils ne se cachent pas la vérité. Le Barça ne joue pas bien. Et sans Ter Stegen, on aurait pu imaginer une victoire du Slavia Prague. Ça, c'est clair. Mais moi, je me souviens du temps où on disait, ah, le Real, c'est Ronaldo Nazario qui met les buts et Casillas qui arrête. Oui, bah, il est là pour ça aussi. C'est vrai, c'est que symptomatique quand le meilleur joueur est le gardien. Enfin, c'est bien d'avoir ce gardien-là. Il est payé pour ça aussi. Donc, Le Barça ne peut qu'être content d'avoir un tel gardien dans ses buts. Mais c'est vrai que dans le jeu, il y a quand même beaucoup de choses qui laissent à désirer. Après, sincèrement, le Barça est dans le groupe de la mort. Au bout de 3 journées, ils sont leaders et seuls leaders. Donc on va pas pleurer non plus. Hein. C'est-à-dire, il y a quand même beaucoup d'équipes qui adoreraient être dans la situation du Barça, leader de la Liga, leader du groupe de Ligue des Champions. J'insiste, le groupe le plus compliqué.
Il y a Oussama Halish, notre auditeur, qui dit Fred, franchement, Valverde, comme j'ai toujours dit, c'est Oussama Halish qui parle, est en train de tuer le Barça. On passe le bonjour à Shlihat, qui affamé à suivre l'avant-match. Également, Samir Ouarab, qui passe le bonjour au consultant de médias. Je reviens sur ce que dit Oussama Halish, parce que quand on voit le Barça face à l'Inter, la première mi-temps catastrophique, l'Inter aurait pu marquer 3, face au Borussia Dortmund, largement dominé et puis malmené. Est-ce que c'est une équipe capable de faire carrière dans cette Ligue des Champions, Fred?
Oui, sur le papier, oui. Mais on n'est pas obligé de bien jouer au football pour gagner. C'est ça. Est-ce que le Barça de Valverde joue bien au foot? La réponse est claire pour tout le monde. Non. Est-ce que c'est une équipe qui maîtrise son sujet, qui domine ses matchs, qui dirige le destin de ses rencontres? La réponse est non. Est-ce que c'est obligatoire pour gagner? Si vous avez Ter Stegen qui continue à mettre, à faire des arrêts comme ça, si vous avez Messi qui retrouve son coup de rein, et si vous avez Griezmann qui s'intègre, et si vous avez le milieu de terrain là avec De Jong, avec Arthur, qui commence à fonctionner, oui. Mais je pense qu'il faut vraiment séparer la réussite d'une équipe de la qualité de son jeu. Le Barça, pendant des années, a été capable de faire les deux, c'est-à-dire un jeu très beau, très bien léché, une domination des matchs et des résultats au bout. Là, en ce moment, il n'y a que les résultats. Est-ce que ça suffit? Ça, je n'ai pas la réponse. On verra ça dans les semaines qui viennent. Mais c'est vrai qu'en général, quand on joue bien en foot, on a plus de chances de gagner des titres. Ça, c'est clair.
Pour l'instant, le Barça a Ter Stegen et l'avant et l'après-match ont David Lortolari. À chaque fois, on commence à se poser la question sérieusement. Bien entendu, une question lancinante. Ter Stegen, comment il est vu en Allemagne chaque week-end, chaque sortie? Il réussit de, on va dire, des prouesses, de belles prestations, des parades qui maintiennent le Barça à flot, David.
Oui, alors si vous voulez une réponse par le prisme médiatique, puisque c'est celui qui nous intéresse nous professionnellement, en Allemagne, il y a un mensuel très influent qui s'appelle 11 amis, Elf Freunde, qui est un mensuel un peu alternatif, qui fait des sujets très approfondis sur le football. La couverture, la une de ce magazine mensuel qui vient de paraître, c'est un portrait serré de Marc-André Ter Stegen, et le titre, en gros, en blanc sur fond foncé, c'est « Voici notre vrai numéro 1 ». Donc voilà un média influent en Allemagne en matière de football qui prend clairement position pour dire ce que Fred nous confirme émission après émission, c'est que ce joueur a complètement le niveau pour être le numéro 1 des gardiens allemands. Moi, je ne me prononce pas sur le sujet parce que on en a déjà parlé plein de fois, mais bien sûr que Ter Stegen, Hakim, a la stature et est vu en Allemagne comme un numéro 1 et au pire un numéro 1 bis.
On rappellera que le Bayern Munich s'est imposé face à l'Olympiakos 3-1. C'est l'ancien international marocain Al Arabi, Youssef Al Arabi, qui a ouvert la marque pour les Grecs. Mais victoire quand même. Quand on parle du Bayern Munich, on a vu, il y a deux informations. C'est cette opération de Hernandez, et ça pose problème parce que déjà, du côté du Bayern, on ne voulait pas qu'il joue avec l'équipe de France. Et puis, même si ça n'a rien à voir pour la blessure, et puis les premières critiques à propos de Coutinho, David.
Alors, ça n'a rien à voir, je suis pas complètement d'accord, parce que on n'est pas médecins les uns les autres, mais si on a mal au genou, on peut essayer de compenser avec une autre partie de la jambe, et il peut y avoir une relation, même si elle n'est pas évidente et si elle est indirecte, il peut y avoir une relation peut-être avec une rechute sur une autre partie du corps, mais je referme cette parenthèse. Bien sûr, on a posé la question cet après-midi en conférence de presse à Niko Kovac, de savoir comment il allait organiser sa défense, qui est décimée avec l'absence de longue durée de Niklas Süle, plus l'absence pour plusieurs semaines de Lucas Hernandez. Très détendu, comme souvent, avec Niko Kovac à ce sujet. Il a laissé entendre de façon assez claire que Jérôme Boateng allait être sollicité, ce qui est logique, hein, parce que c'est l'un des défenseurs centraux qui reste valide. Et puis qu'il y avait aussi d'autres solutions, avec par exemple, il va bien falloir qu'il débute un jour, ce jeune, puisqu'il vient de confirmer avec un contrat professionnel. Il y a Lucas Mai, voilà un nom qu'il faut commencer à connaître, qui va peut-être avoir avoir sa chance un jour ou l'autre en Bundesliga de 19 ans, qui arrive dans l'équipe professionnelle et qui pourrait avoir aussi une, qui pourrait faire une solution pour la défense centrale. Mais bon, effectivement, il y a des soucis. Les journalistes ne s'y trompent pas. Personne n'est dupe à Munich. On pose beaucoup de questions sur le, sur l'identité de jeu, sur la, la capacité de cette équipe à avoir un bon investissement sur le terrain. Et c'est ce que Niko Kovac revendique aussi vis-à-vis de la presse pour ses joueurs. Il les a mis un peu au pied du mur cet après-midi. Et on va savoir ce week-end contre l'Union Berlin si ses joueurs, et Coutinho parmi eux bien sûr, sont capables de jouer aussi pour leur entraîneur, c'est-à-dire d'aller faire l'effort, d'aller au charbon. Philippe Coutinho, qui avait été très, très encensé au départ, parce qu'on avait évidemment adoré à Munich sa facilité technique, son aisance et sa qualité de joueur en tant que, qu'individuel. Aujourd'hui, il est un peu moins en vue, il est un peu moins fringant sur le terrain, peut-être un peu de fatigue aussi avec les premiers matchs, peut-être. Et du coup, il est lui aussi un petit peu remis en question. Bon, dans ces grands clubs, on le sait, hein, ça va très très vite. Et dès qu'une vedette flanche un peu, elle est remise en question. C'est aussi le jeu de ce genre de club-là.
Voilà donc pour le Bayern Munich. Le Borussia Dortmund a été battu par l'Inter en Ligue des Champions. On en a parlé tout à l'heure avec Simone Rovera. Le Borussia qui a un match important. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, on ouvre une parenthèse. Il y a Oussama Hanich, notre auditeur, Fred, qui insiste. Je voulais parler du Real, de Benzema. Mais cher Fred, par exemple, si par exemple Klopp était entraîneur du Barça, avec cet effectif, il fera des ravages. Le seul coupable, non seulement pour moi, c'est Valverde. Voilà donc pour Oussama Hanich. On attend, c'est le mois d'octobre. Peut-être que l'équipe va s'améliorer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les prochains mois. On doit avancer, Oussama. On parle du Real Atlético à cette manière de gagner par 1-0. Parfois, l'équipe se met à l'abri. Parfois, elle se fait piéger. Le Real Madrid, c'est une remarque qu'on a vue l'autre jour, l'association Benzema-Hazard. Et on a l'impression que ce Benzema, non seulement il sait jouer avec les stars, mais il réussit, il arrive à faire jouer des joueurs comme Ronaldo, comme Hazard, comme Gareth Bale. Peut-être on va demander, peut-être à Didier Deschamps, ne serait-ce qu'une fois, de retenir Benzema avec les joueurs dont dispose la sélection de France en ce moment. Bon, on va faire une pétition après. Mais d'abord, Benzema, le Real, 27 tirs, mais à l'arrivée, ça fait 1-0 face à Galatasaray.
Oui, mais ça fait deuxième place, avec deux points d'avance sur le troisième. Ça fait une qualification qui commence à se deviser à l'horizon. Ça fait une crise qui est surmontée et ça fait une menace sur Zidane qui s'est éloigné. C'est qu'un petit but, mais il pèse énormément sur le Real Madrid. Sincèrement, oui, il y a un petit problème d'efficacité. Il y a quand même Hazard qui a trouvé la barre aussi. Enfin, il y a eu plein d'occasions. L'important, ce sont les sensations. Il y a des matchs gagnés 3-0. Où on se dit, oh là là, c'est pas terrible, et attention à ce qui va venir. Et il y a des matchs à gagner 1-0 qui montrent, en l'occurrence celui-ci, que les joueurs sont à fond derrière leur entraîneur et que le 11 de Zidane commence à se dessiner.
Fred, il y a aussi quelqu'un qui a été, qui a été très critiqué ces dernières semaines et qui a été impérial et décisif, c'est Courtois, surtout les deux premières trois actions du club turc.
Ça a été le meilleur match de Courtois depuis un an et demi qu'il est au Real Madrid, parce qu'il a été décisif. Là, il y a vraiment une victoire qui s'est dessinée grâce à Courtois. Donc tout ça fait que le 11 de Zidane commence à se dessiner, avec Courtois qui a enfin conquis le droit réel, pas parce qu'il a été acheté par le président, mais parce qu'il est vraiment un très bon gardien, d'être dans les buts. Quand on voit par exemple le milieu de terrain, mais ça je peux vous l'annoncer, dans les matchs importants, vous allez voir un milieu de terrain composé de Casemiro, de Valverde et de Kroos. C'est une évidence. Voilà, je les ai vus jouer en direct.
Ça veut dire que Modric a perdu sa place en quelque sorte.
Mais oui, bien sûr. Mais oui, parce que Modric, aujourd'hui, se rapproche des 34 ans. Il n'a plus 50 matchs dans les jambes. En plus, comme il joue beaucoup avec la sélection, il revient, il se blesse. Donc aujourd'hui, Modric est un remplaçant au Real Madrid. Il va être utile. Il va faire des bouts de match, mais quand on dit voilà l'équipe idéale pour jouer contre le Barça, eh ben je peux vous assurer que ça sera Valverde, que ce sera Kroos et ce sera Casemiro, parce que Kroos devient en fait, comme Zidane n'a pas eu son joueur le box to box qu'il attendait en la personne de Pogba, il est en train de faire de Kroos son Pogba avec deux joueurs qui vont lui permettre, qui lui permettent déjà d'être libéré de tâches défensives et d'être beaucoup plus offensif, en l'occurrence protégé par Casemiro et par Valverde. Et on a bien vu, au Wanda Metropolitano, Kroos était procuré une très belle occasion, une volée avec un très bel arrêt, là aussi d'un grand gardien, Liano Black. Et de l'autre côté, on avait un Kroos qui a marqué le but de mardi soir. Il n'y a pas de hasard. C'est pas parce que d'un coup, Kroos dit, tiens, je vais essayer de frapper au but. Non. Pourquoi il frappe au but dernièrement? Parce qu'il est plus offensif et parce qu'il est libéré des tâches défensives par la présence des deux autres. Voilà. Zidane est un grand entraîneur et les choses se passent parce que Zidane les fait. Donc, puis Benzema est merveilleux. Mais tu citais, mon cher Hakim, des joueurs comme Ronaldo, comme Hazard, etc., comme Rodrigo. Il y a des images de Benzema en train de travailler avec le jeune Rodrigo, qui a fait un très bon match. Hein. C'était la première fois qu'il était titulaire au Real, et c'était un match décisif. Et on voit comment Benzema lui expliquait ce qu'il devait faire. Benzema est un bonheur pour n'importe quel entraîneur du Real Madrid. Mais sincèrement, je pense vraiment qu'on est en train de voir se dessiner le Zidane 2.0, l'équipe 2.0 de l'entraîneur français.
Est-ce qu'on a oublié, parce que peut-être qu'il suffit d'un nouveau revers, mais est-ce qu'on a oublié déjà, parce qu'on a trop, beaucoup parlé de José Mourinho, Fred ?
Je pense qu'on a beaucoup parlé de José Mourinho, parce que Mourinho a tout fait pour qu'on parle de lui. Voilà, vous savez, c'est très facile d'utiliser des journalistes et de lancer des rumeurs et de se dire, voilà, Mourinho, il est là, un petit peu comme un vautour qui attend, voilà, qui est de la chair faisandée pour aller se nourrir. Voilà. Mais je pense que José Mourinho, il peut attendre encore un petit peu, là. Parce que quand on a une équipe aussi forte, aussi à fond derrière son entraîneur, comme le Real aujourd'hui, je pense que Zidane est encore là pour un petit moment.
Voilà, donc il y a Ilham Mann qui ne pense pas que l'Atlético fera long feu. Oussama Hanich qui dit que Marcelo ne mérite pas d'être titulaire. On va en Allemagne, il nous reste trois petites minutes. David, le week-end s'annonce intéressant. Il y a le Bayern, on le sait, qui alterne le bon et le moins bon, qui a déjà cédé beaucoup de points au championnat ces dernières semaines. Leipzig, qui aussi alterne le bon et le moins bon ces dernières semaines. Le Borussia Dortmund, qui a gagné l'autre jour face au Borussia Mönchengladbach, mais qui a rechuté en Ligue des Champions. Et ce week-end, un match intéressant, c'est un derby, 35 km entre deux équipes, Schalke et le Borussia. Il y a également une confrontation entre internationaux marocains, un ancien du Real avec un ancien du FC Nantes, Amin Harit et Achraf Hakimi.
Ah bah oui, c'est alléchant. On a survendu un peu médiatiquement les dernières années parfois ce match parce qu'il y avait trop d'écart entre les deux et souvent à l'avantage de Dortmund bien sûr, et on avait un peu survendu ce derby qui reste toujours très âpre et très disputé, y compris entre les supporters des deux camps qui sont très très nombreux. Et là, il y a une vraie rivalité sportive parce que l'état d'esprit à Schalke est exemplaire et c'est tout à fait nouveau par rapport aux dernières années. Par exemple, très vite, mais l'attaquant, l'avant-centre autrichien Burgstaller a été capable de dire ces derniers jours, moi, si je marque pas de but pendant la saison, mais que mon équipe fait partie des trois premiers, je signe tout de suite. Donc c'est quand même un acte d'altruisme tout à fait intéressant et révélateur. Et puis côté Dortmund, il va y avoir normalement le retour de Marco Reus qui a été absent en Coupe d'Europe, et on va vouloir aussi affirmer encore une fois sa suprématie. Donc c'est un match très excitant, et côté internationaux marocains, évidemment, Amin Harit est en train de devenir la vedette de Schalke, et de l'autre côté, Achraf Hakimi est aussi capable souvent d'être décisif, parfois dans le bon sens, parfois aussi dans le mauvais, mais c'est un joueur qui compte à Dortmund, et voilà, moi je suis très excité de ce derby qui enfin retrouve de sa superbe.
Rapidement, oui ou non, Lucien Favre est menacé, David ?
Oui, menacé parce que c'est, il y a une mésentente, une mauvaise compréhension avec ses dirigeants et puis avec les joueurs. Le message ne passe pas encore très bien non plus, et il est dans une période difficile. Il va falloir gagner des matchs pour assurer sa place.
On a une question de Khawla Abidine, on va y répondre dans un instant, mais rapidement, Fred, qu'en est-il du Classico? Parce que la date pourrait encore changer, le 18, c'est pas encore vraiment officiel parce que, eh bien, ça discute encore.
Oui, parce que la Liga, alors le comité de compétition de la Fédé, les deux clubs se sont mis d'accord sur le 18 décembre, mais la Liga a déposé un recours devant la justice en demandant à ce que ça se joue le 4, donc On devrait avoir une réponse assez rapidement, mais comme toujours en Espagne, on ne fait rien pour que les choses soient claires et simples pour les supporters.
En attendant, c'est Granada qui a l'occasion de s'emparer de la première place en cas de victoire ce week-end, puisque eh bien, le Barça, le leader, ne joue pas son match face au Real Madrid. Merci beaucoup Frédéric Hermel à Madrid, de notre monsieur football espagnol, et également David Lortolari pour le football allemand. Merci, bonne soirée et à lundi prochain pour l'avant-match. On répond à Raoula Abidin qui dit « Est-ce que les matchs des demi-finales de la Coupe du Trône se jouent en un seul match décisif ? Allez, au retour, merci. » Eh bien, les matchs de la demi-finale de la Coupe du Trône se joueront les 9 et 10 décembre à Tanger et à Marrakech. On rappellera que le Difa d'Al Jadida sera opposé à l'équipe du TAS, l'Ittihad de Casablanca, équipe de deuxième division. Et puis l'autre rencontre, ça sera entre le Maghreb de Tétouan, le Hassania d'Agadir plutôt, le Maghreb de Tétouan contre le Hassania d'Agadir. Voilà pour les affiches, ça sera Tanger et ça sera Marrakech et ça sera sur un match décisif, pas d'aller et retour. Voilà. On a essayé de répondre à la question de Raoula Abidin. Merci à tous, notre ami Nagy à la réalisation, toute l'équipe du Digital. Excellent début de soirée à l'écoute de Média.
Dybala centralmente, ancora grande idea. Vantaggio Juve. Ha sorpreso con un inserimento alle spalle della difesa del Milan.
Buona partita per il Milan.
C'est pas terminé. Et Neymar, voilà. Et voilà le premier but de Neymar en Ligue 1 sur un service d'Edinson Cavani. Apprêté pour un rendu entre l'Uruguayen et le Brésilien. Une relation qui est en train de naître.
L'avant-match avec Hakim Tamim.